un podcast France Culture.
Aujourd'hui, troisième débat économique en vue des élections européennes du mois prochain. En ce jour de célébration de la capitulation de l'Allemagne nazie, retour sur la politique de défense européenne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'UE se réarme. Une stratégie industrielle européenne a même vu le jour. Objectif, financer des projets militaires communs et favoriser les achats conjoints. Mais le chemin vers une Europe de la défense s'annonce encore long. Pour parler de la stratégie européenne de réarmement, nous avons invité Renaud Bellet, co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès, auteur avec Axel Nicolas d'une note intitulée « 5 années qui ont transformé la défense européenne, enjeu pour l'UE après l'élection de juin 2024 ». Également avec nous en duplex de Grenoble, Fanny Coulon, économiste, maîtresse de conférence à Sciences Po Grenoble, chercheuse au laboratoire CESIS de l'Université Grenoble-Alpes, autrice de cet ouvrage « Les industries de la défense dans le monde » paru aux presses universitaires de Grenoble en 2017. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Premier pas vers une union occidentale au Palais des Académies à Bruxelles. Cinq nations de l'Ouest européen viennent de signer un pacte qui resserre leurs liens économiques et défensifs. Monsieur Bevin, après Monsieur Spaak et ses amis du Benelux, signait, immédiatement suivi du représentant de la France, ce traité d'alliance dont Monsieur Bideau a pu dire « Ni la ruse ni la violence n'ont inspiré notre décision. Ce que nous signons est la pierre angulaire de la construction européenne. »
Bonjour Fanny Coulon et Renaud Bellet.
Bonjour Tiffaine.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'était une archive des actualités françaises du 25 mars 1948. La France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg signent alors un traité de collaboration qui inclut la question de la défense. Les pays européens veulent alors empêcher le retour de la guerre, Renaud Bellet.
Tout à fait, oui. L'objectif, c'est de pouvoir se préparer en cas d'agression et de coordonner les efforts. Donc, ce sont les prémices plus que de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, puisque un an après, on aura le traité de Washington qui va créer l'Alliance Atlantique et mettre en place l'OTAN.
Et c'est justement la création de l'OTAN en avril 1949 qui va mettre un coup d'arrêt à ce qui aurait pu être une Europe de la défense, Fanny Coulon.
Oui, c'est vrai que ça va beaucoup retarder. On peut dire, alors si on avance dans le temps, que c'est au sommet franco-britannique de Saint-Malo en décembre 98 qu'il y a à nouveau une impulsion pour une défense européenne, avec la réaffirmation de la nécessité d'une force commune de gestion de crise et le constat d'un déficit capacitaire face aux États-Unis, notamment. Après, il y a le sommet d'Helsinki en 99, le sommet de Thessalonique en 2003 et la création d'une agence européenne de défense. Voilà, et entre-temps, il y avait eu quand même en 1996 une organisation commune de coopération en armement qui avait été créée par l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni pour gérer des programmes de coopération sur la production d'armement.
Et on va voir que cette Europe de la défense peine à voir le jour. Mais d'abord, Renaud Bellet, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'industrie de la défense ?
L'industrie de la défense est une industrie qui sert une mission de politique publique. Donc en fait, le principe dans l'armement, c'est l'interdiction. Aujourd'hui, on a un principe de monopole de l'État sur la production d'armement et l'État délègue en fait à des industriels la mission de produire. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, l'évolution technologique, l'évolution de la gestion des projets n'est pas le cœur de compétence de l'État. Il avait historiquement des arsenaux, donc des unités de production étatiques, mais ça n'était pas très performante. En tout cas, pas aussi performante que ce qu'on pouvait espérer. Et donc, l'État a délégué. Et donc, on est dans un marché assez particulier parce que c'est un marché qui est fondé sur une approche politique pour un besoin politique, armer les soldats pour pouvoir assurer la défense nationale. Et donc, on est dans une structure un peu hybride entre le marché et la planification.
Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas une, mais des industries européennes de la défense, Fanny Coulon.
Oui, c'est vrai parce qu'il y a eu une évolution différente en fonction des secteurs. Dans les années, à la fin de la guerre froide, il y a eu une restructuration de l'aéronautique avec des privatisations et un secteur qui avait beaucoup de liens avec le civil et donc qui s'ouvrait plus facilement à la concurrence et aux logiques d'économie de marché. Et donc, il y a eu des grands groupes qui ont été constitués au niveau européen, comme bien sûr Airbus, BAE Systems au Royaume-Uni. Et dans le naval et le terrestre, c'est une industrie qui est restée beaucoup plus, pour certains pays, sous contrôle étatique, beaucoup plus fragmentée, avec encore aujourd'hui des luttes fratricides entre industriels européens sur le naval et le terrestre. Voilà, mais globalement, on peut dire que même pour l'aéronautique militaire, c'est pas une industrie comme les autres, parce que c'est un secteur industriel qui est alors je pense que Renaud en reparlera, mais qui est relativement difficile à rentabiliser. Les investissements sont lourds, coûteux, il y a beaucoup d'aléas technologiques. On l'a vu d'ailleurs, vous avez diffusé une archive historique. Et en fait, si on pense au réarmement des années 30, il a été très compliqué, aussi bien en France qu'en Allemagne ou dans d'autres pays. Parce que justement, les industriels rechignaient un petit peu à s'engager dans des productions qui étaient peu rentables, avec un État mauvais payeur. Il suffit pas de décréter le réarmement pour que ça fonctionne.
Oui, on comprend que c'est une industrie très particulière que l'industrie de l'armement sur le plan économique, Renaud Bellet.
Oui, tout à fait. En fait, on parle de marché européen de l'armement, mais c'est une représentation statistique en quelque sorte, parce qu'en fait, on a une agglomération de marchés nationaux. Chaque État régule son activité industrielle et souhaite conserver, en tout cas pour les plus ambitieux, des compétences, une sécurité d'approvisionnement nationale. Ce qui fait que, comme Fanny l'évoquait, on a eu un mouvement de consolidation du côté de l'offre qui est lié à des tendances d'évolution des volumes de production, de coûts des systèmes, qui faisait que là où on pouvait avoir un marché viable au niveau français, par exemple, du contenu de l'évolution de la technologie, on est obligé de passer à une échelle supérieure. Pas forcément de l'ensemble de l'Union européenne, mais parfois de coopération. On le voit, par exemple, Renan Le Gleut et Hélène Commémouret ont fait un rapport au Sénat sur le futur système de combat aérien. On a pu faire le Rafale en France, qui a coûté à peu près 45 milliards, mais le futur système coûtera le double. Et donc aujourd'hui, compte tenu non seulement du coût, mais aussi des volumes de production qui seront associés, il faut associer au moins l'Allemagne, voire l'Espagne, voire d'autres pays, pour avoir une taille critique de marché qui permette la viabilité de l'activité. Ce morcellement, il est lié au fait que j'évoquais précédemment qu'on est dans un outil politique et donc il y a une volonté de contrôler ce qui s'y passe, hein, l'interdiction, et la volonté aussi de maîtriser l'approvisionnement. Donc on est dans une évolution qui est plutôt économique du côté de l'offre, liée à des dynamiques industrielles, mais une logique très politique du côté de la demande, qui tend à s'opposer à la création d'un marché unique de l'armement en Europe.
Et alors justement, on va voir pourquoi il est si difficile d'avoir une industrie européenne de la défense, une industrie commune. À la fois, il y a cette difficulté, et de l'autre, ce qu'il faut expliquer, Fanny Coulon, c'est qu'il y a en Europe de très grands producteurs d'armement.
Ah oui, c'est alors on est évidemment historiquement les beaucoup de pays européens sont parmi les premiers producteurs d'armement donc on conservait, hein, parce que c'est des marchés qui souvent étant donné l'importance des budgets de recherche développement ont beaucoup de barrières à l'entrée, hein, et donc il y a un avantage aux premiers entrants historiques il y a des producteurs d'armement qui sont installés depuis longtemps dans le secteur, dans les pays européens bien sûr, avec un lien souvent entre la taille du budget de l'armement et la taille des groupes industriels dans ce secteur, parce que en fait les États sont les premiers clients des industries d'armement. Les exportations mondiales ne représentent qu'à peu près 30% de la production mondiale d'armement c'est environ 70% qui est vendu en fait directement aux États nationaux. Donc il y a un lien entre la taille du budget national et la taille des groupes et de l'industrie de défense.
C'est ce qui permet à la France d'être le troisième exportateur mondial d'armement.
Tout à fait. Alors, mais si on regarde l'Union européenne, alors j'ai regardé les chiffres, pour 2022, les ventes d'armes de l'Union européenne, alors stricto sensu, hein, vraiment que les pays de l'Union européenne, pas l'Europe au sens large, c'était 13,2% du total des ventes des 100 premières entreprises qui en fait font la plupart, on va dire la quasi-totalité des programmes d'armement majeurs. Donc on est 13% du total mondial contre 51% pour les États-Unis. Mais ça correspond à notre part dans les dépenses militaires mondiales à 12%. Mais par comparaison, les États-Unis n'ont que, entre guillemets, 37% de dépenses de part de dépenses militaires dans le total mondial. C'est-à-dire qu'ils font mieux relativement en termes de vente d'armes. Pourquoi ? Sans doute parce que beaucoup de pays européens achètent des produits non européens aujourd'hui.
Renaud Bellet, sur les grands pays producteurs d'armement en Europe ?
Alors, en Europe, en fait, comme le disait Fanny, la taille de l'industrie reflète le niveau d'ambition que l'on a. Donc, en fait, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est quand même en Europe, sont les grands pays, parce que ce sont des pays qui ont cherché à maîtriser, en fait, leurs sources d'approvisionnement et qui ont des ambitions d'agir, notamment la France et le Royaume-Uni, donc d'avoir des moyens pour pouvoir porter, en fait, une action internationale. Et donc ici, en plus, avec la volonté pour la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne d'être des partenaires de premier rang par rapport aux États-Unis, hein, la capacité d'entrer en premier dans un théâtre, par exemple, suppose des moyens sophistiqués et donc c'est pour ça qu'en France on a développé le Rafale par exemple, c'est un moyen de pouvoir pénétrer les défenses adverses, ce qu'on ne pourrait pas faire avec des équipements qui seraient beaucoup beaucoup plus simples en quelque sorte. Donc la complexité est liée à la mission et donc bien sûr cette ambition politique et aussi la volonté d'avoir une autonomie stratégique, donc de maîtriser les sources d'approvisionnement, a favorisé l'émergence d'entreprises très performantes. Et cette performance, comme souvent, en fait, s'exprime à l'international. En économie internationale, on sait bien que ce sont les entreprises les plus performantes dans tous les domaines qui sont capables de s'internationaliser. Et donc, on voit qu'on retrouve ici une logique assez similaire au secteur civil.
Il y a les champions historiques en Europe, comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. Et puis, il y a de nouveaux champions, pourrait-on dire, comme la Pologne et la Suède, Fanny Coulon ?
Oui, et puis n'oublions pas l'Italie, hein, qui, dans les derniers classements, a la première entreprise de l'Union européenne en termes de vente d'armes, hein, Leonardo, dans l'aéronautique et le spatial. Donc, voilà, oui, il y a quelques grands poids lourds. De façon générale, la production d'armement mondiale est très concentrée. On a plus de 80% de la production de défense, des totales des ventes d'armes, qui se fait uniquement à 15 pays. Donc, c'est extrêmement concentré. Et donc, il y a une très forte concentration dans l'Union européenne, avec alors l'Union européenne pour les statistiques a beaucoup perdu avec le Brexit, hein, parce que le Royaume-Uni était légèrement devant la France et le reste aujourd'hui, et donc mais donc la France aujourd'hui, sur les 12% que j'évoquais de total pour les entreprises européennes dans les ventes d'armes mondiales, la France a un peu plus d'un tiers, 4,3%. Et l'Allemagne l'Italie ensuite a 2,8% et l'Allemagne 1,5%. Et après, on passe à des parts autour de 1% ou inférieur pour l'Espagne, la Pologne, la Suède, la Finlande, l'Irlande. Bon, il y a aussi la Norvège, hors UE.
Nous allons décider demain de mettre ensemble notre capacité de production de défense. Nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, afin de pouvoir à la fois fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin, mais aussi pour nous, pour notre propre sécurité. Tout le monde maintenant a conscience, en Europe, j'allais dire enfin, parce qu'il était temps, qu'il était absolument indispensable de reprendre notre destin en main et donc notre base industrielle.
Nous devons dépenser plus, nous devons dépenser mieux, et je pense que nous devons dépenser plus européen pour consolider notre base industrielle de défense.
Nous proposons d'atteindre l'objectif d'ici à 2030 d'acquérir 40% des équipements de manière collaborative et d'acquérir 50% des équipements au sein de l'Union européenne.
Nous parlons des grands défis de l'industrie européenne, de la défense, avec Renaud Bellet et Fanny Coulon sur France Culture. D'entendez-vous l'écho ? On vient d'entendre dans l'ordre le commissaire européen Thierry Breton, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager. Le 5 mars dernier, la Commission a donc présenté cette stratégie industrielle européenne de défense au niveau de l'Union européenne. C'est une grande première, Renaud Bellet ?
Oui, en fait, on est dans une rupture par rapport à une trajectoire historique. Quand on l'évoquait tout à l'heure, en fait, la défense européenne s'est construite au travers de l'Alliance Atlantique et portée par l'OTAN. Mais en fait, l'OTAN n'est qu'une grande alliance militaire. C'est un état-major permanent qui doit accompagner les forces des différents pays à être se coordonner en cas d'attaque ou de crise. Le problème, c'est que aujourd'hui, l'industrie de défense participe à la posture de défense parce qu'elle apporte en fait des moyens d'opérer. Parce qu'avoir des troupes, c'est bien. Avoir des moyens pour les équiper en matériel, en munitions, on le voit en Ukraine, c'est essentiel. Et donc, en fait, pendant très longtemps, la question ne se posait pas trop parce qu'on était dans une relation de symbiose avec les États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique, avec un ennemi commun. Mais à partir des années 90, on a eu une petite divergence parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs stratégiques. Et on s'est rendu compte que les Américains n'étaient pas toujours allants pour aller faire des opérations qu'on voulait faire. Et on a pris conscience, la France l'a pris très tôt, à partir de 1956 et la crise de Suez, où les Américains ont refusé de livrer des munitions. Mais progressivement, des pays comme la Pologne ont conscience que pour assurer sa défense, il faut maîtriser sa production d'armement. Or, les États ont tenté de coopérer à partir des années 80 pour développer des programmes communs, pour maîtriser les coûts, assurer une pérennité de l'industrie de défense en Europe, après une très forte baisse suite à la fin de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin. Donc ça a fragilisé la base industrielle qui était assez conséquente, ça a beaucoup diminué. Mais donc pour sauvegarder en fait un noyau de compétences, on a fait des programmes en coopération. Mais les États en fait ont du mal à coopérer entre eux. Et donc cela a créé un appel d'air pour la Commission européenne qui a proposé de mettre en place des outils.
Cette première stratégie industrielle européenne de défense constitue pour vous aussi un virage, Fanny Coulon ?
Oui, tout à fait, parce que, comme le dit Renaud, c'est vrai que c'est impossible, en fait, d'arriver à coopérer sans incitation forte, et aussi sans incitation, alors, forte politiquement, mais aussi au niveau financier, de la part de l'Union européenne. Parce que, en fait, il y a beaucoup de blocages qui sont du fait qu'il y a encore je rappelle que le secteur militaire est l'un des seuls secteurs qui n'ait jamais, par exemple, été inclus dans les négociations multilatérales du GATT ou de l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, parce que c'est de la souveraineté étatique. Il y a une possibilité pour les États européens de faire de la préférence nationale en fait dans leurs achats d'armement. Il y a des sortes de tolérance et de dérogation, même si la Commission européenne a toujours poussé pour la libéralisation et une concurrence beaucoup plus pure et parfaite en matière d'achat d'armement dans l'Union européenne pour la libéralisation du secteur. Mais voilà, donc les protectionnismes restent et on voit que il y a énormément de disputes quand il s'agit de faire des programmes en commun. Donc l'exemple typique, c'est le char de combat franco-allemand, qui est un projet qui en fait remonte à l'après-guerre. Donc dès les années 50, il y a ce projet qui est développé, qui est mis sur la table de char franco-allemand, qui en fait n'est toujours pas concrétisé aujourd'hui. Alors même s'il y a eu ces derniers temps pas mal d'avancées, qui s'appelle maintenant le Main Ground Combat System, donc avec une alliance, un consortium qui s'est fait entre la principale entreprise française du domaine Nexter et l'allemand KMW. Donc ça donne une alliance KNDS, mais
ça reste difficile. C'est ce que vous nous dites. Hein. C'est que ces collaborations, ces collaborations restent compliquées. Alors justement, comment la Commission entend faciliter la possibilité de mener des projets communs de défense, Renaud Bellet?
En fait, comme l'a dit Fanny, dans les années 1990, la Commission a essayé de normaliser le marché en le rendant un marché unique dans l'armement comme dans d'autres secteurs. Ça n'a pas marché, les États sont opposés en disant ne touchez pas à ce sujet, c'est en dehors des traités, donc article 346 du TFUE maintenant, qui donne la compétence exclusive aux États. Néanmoins, la Commission a utilisé des leviers économiques en disant, voilà, moi je ne suis pas un acteur de la défense, Par contre, j'ai l'article 172 du traité qui dit que je suis en charge de la compétitivité économique et industrielle. Et donc, la Commission a cette stratégie que vous évoquiez, est en fait un moyen d'essayer de mettre en cohérence des outils qui se sont construits de manière un peu ad hoc, avec une accélération depuis le sommet de Versailles en mars 2022. La Commission a essayé de poser des règles, des directives en 2009, pour simplifier les transferts intracommunautaires et obliger les États à réduire la préférence nationale ou dans l'attribution des marchés, en disant si le marché n'est pas essentiel, il faut faire une concurrence européenne. Mais ça, c'était un cadre de régulation permissif, mais pas suffisant. Et donc, comme l'a dit Fanny, la Commission a dit, moi, je ne veux pas décider à votre place, messieurs les États, mais par contre, j'ai un petit peu d'argent, peut-être que je pourrais vous aider à être efficace. Et bien sûr, en contrepartie de l'argent, il faut accepter des règles du jeu, que les États ont du mal à, sur lesquelles les États ont du mal à converger spontanément. Et donc, c'est ça, en fait, la force de la Commission, c'est de dire, je vais vous apporter des outils, des catalyseurs et des accélérateurs de coopération, et je serai une sorte de juge de paix, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre entre pairs, je vais jouer le juge de paix qui va permettre de mettre en place une coopération plus harmonieuse.
Ursula von der Leyen l'a dit, il s'agit de produire plus, mieux et surtout européen. Ça, c'est un enjeu extrêmement important, Fanny Coulon. C'est pour l'UE de réduire sa dépendance, notamment à l'égard de l'industrie américaine de défense.
Oui, c'est absolument central parce que on voit aujourd'hui que les Américains sont en position de force et ils cherchent à étendre encore leur domination sur l'industrie mondiale d'armement, qui est pourtant déjà très importante, notamment en utilisant aussi l'extraterritorialité de leurs droits et donc en contrôlant très sévèrement toutes les exportations, donc notamment des industriels européens, qui contiennent des composants, des technologies, où ça va très très loin, hein, donc américaine. Donc ça suffit à bloquer des exportations potentielles d'industriels européens vers des destinations non souhaitées par les États-Unis. Donc alors ça peut être pour des raisons stratégiques bien sûr, mais c'est aussi sans doute un instrument important de protectionnisme industriel pour les Américains et on voit aussi que avec l'Ukraine, bon, la peur de certains pays proches de la Russie a accéléré le rapprochement avec les États-Unis et les ventes d'armes américaines dans l'Union européenne. Du coup, l'Union européenne doit réagir pour que son industrie d'armement ne disparaisse pas assez rapidement, en fait, parce que l'enjeu est finalement là. Ça devient une question de survie, en fait.
Oui, l'enjeu pour l'Union européenne, c'est effectivement de se réarmer.
Présenté
France Culture.
Ça, c'est mon fusil. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui, c'est le mien. Mon fusil, c'est mon vrai copain. Lui, c'est ma vie. Il faut que je maîtrise mon fusil comme il faut que je maîtrise ma vie.
Entendez-vous l'écho?
Reposez, armes, exécution.
Tiphaine de Roquigny.
La question de la défense européenne revient aujourd'hui sur la table dans un contexte de réarmement mondial. Réarmement qui s'est accéléré, évidemment, avec la guerre en Ukraine, Renaud Bellet, mais qui avait déjà commencé avant.
Oui, en fait, les tensions internationales ne se limitent pas à l'Europe. En fait, il y a une course aux armements larvée qui existe entre la Chine et les États-Unis depuis, alors si on regarde pratiquement le milieu des années 1990 pour certains Américains, mais qui s'est beaucoup accéléré avec l'arrivée de Xi Jinping en 2012, qui a une vision plus conflictuelle des relations internationales. Il y a des tensions aussi importantes, et ce qui fait que aussi on a inversé les dividendes de la paix qui ont eu lieu dans les années 90, où on avait l'espérance que les grandes guerres auraient cessé et qu'on aurait peut-être des interventions type opération extérieure. D'ailleurs, si on lit le livre blanc de 1994 en France, on abandonne une défense territoriale pour passer à une défense, à des opérations type OPEX, opération extérieure. Et on s'est rendu compte, alors en France, on n'a pas trop diminué l'effort, mais on voit bien que beaucoup de pays européens ont eu des dividendes de la paix très importants et en fait, ils ont sous-investi dans leur outil de défense. Or, aujourd'hui, on a un effet de compensation. C'est-à-dire que l'Allemagne a lancé un fonds spécial de 100 milliards pour acheter des matériels de guerre parce qu'ils ont sous-investi et l'IFO, qui est un institut à Munich d'économique, a dit que le sous-investissement en 30 ans était de l'ordre de 600 milliards. Donc on voit ici que ce n'est pas une course aux armements au sens classique du point de vue économique, c'est aussi une surcompensation d'un déficit majeur où on se rend compte qu'on est dépourvu face à une menace potentielle.
De nombreux pays issus de l'ancien bloc soviétique ont plus que doublé leurs dépenses militaires depuis 2014, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté à l'est de l'Ukraine. Fanny Coulon, vous diriez-vous aussi que ce réarmement européen constitue un rattrapage ?
Oui, complètement. L'Union européenne était la seule zone du monde à ne pas avoir réaugmenté ses dépenses militaires à la fin des années 90. La seule zone au monde, on était un cas très particulier de régions qui considéraient qu'il y avait moins besoin d'investir dans le militaire. Beaucoup de nouveaux États membres de l'Union européenne comptaient sur l'OTAN pour assurer leur défense. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont augmenté le plus leurs dépenses militaires au cours de ces dernières années. Par exemple, j'avais vu que la Hongrie avait augmenté de 72% ses dépenses militaires en 4 ans entre 2018 et 2022. La Lituanie de 44%, etc. La Belgique de 39%, la Pologne de 34%. Donc c'est des taux qui sont évidemment extrêmement élevés et qui montrent une situation de crise. Et on a complètement basculé, comme le disait Renaud, d'une période de la globalisation heureuse avec la fameuse théorie de la fin de l'histoire de Fukuyama, il n'y aura plus jamais de conflit militaire majeur, et à une situation où de nouveau on est extrêmement dans une situation de guerre économique qui est très basée sur la concurrence aussi sur les pièces et composants qui peuvent servir le militaire et notamment les semi-conducteurs qui sont au cœur de la guerre par exemple entre la Chine et les États-Unis, de la guerre économique et technologique. Parce que la Chine affirme, et là c'est un changement aussi dans le discours chinois par rapport aux années 90-2000, affirme très clairement sa volonté de rattrapage militaire accéléré.
Oui, la Chine qui augmente ses dépenses militaires depuis près de 30 ans. Mais alors, ce que l'on observe, c'est que dans cette course aux armements, il y a de nouveaux acteurs qui émergent. C'est notamment le cas de la Corée du Sud, Renaud Bellet.
Oui, alors le modèle sud-coréen est assez intéressant parce que finalement, c'est un modèle d'autonomie stratégique. Ça renvoie à la question qu'on se posait précédemment. Pourquoi on veut acheter européen, comme me disait Ursula von der Leyen? C'est parce qu'en fait, c'est une activité économique particulière puisqu'elle a une mission politique. Et la mission politique, c'est d'être capable de fournir quand on veut, comme on veut, à nos armées. Ne pas dépendre d'approvisionnements sensibles qui pourraient être bloqués ou de livraisons matérielles. Et donc la Corée était toujours très proche des Américains. Mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient des restrictions par rapport au type d'équipement, comme la Turquie également, qui est un allié très proche. Et donc, même les Polonais, dans le même esprit, veulent développer leur industrie nationale pour maîtriser localement la production, parce que en cas de conflit avec un partenaire, on a beau être très proche, ça reste un partenaire. Et donc, le fondement de cette production d'armement pour un pays qui a des ambitions d'autonomie, tous les pays n'en ont pas, mais des pays comme la Corée ne veulent pas se retrouver dans une situation périlleuse, et donc, comme le disait déjà Adam Smith, dans l'armement, la décision de localiser une production n'est pas une décision purement économique, elle est avant tout politique, parce que l'inverse de l'indépendance, c'est la dépendance. Et donc, en fait, la Corée a construit son industrie, mais comme les pays européens, son marché national est trop petit pour faire vivre cette industrie, d'où la recherche d'exportation. C'est une particularité partagée entre la Turquie, comme nouveau pays émergent, la Corée du Sud, avec les pays plus anciens, comme les pays européens.
Dans ce contexte de réarmement mondial, comment créer une véritable industrie européenne de la défense? On continue à en parler avec vous, Fanny Coulon et Renaud Bellet. Mais d'abord, place à Bob Dylan sur France Culture.
Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand And you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question.
Masters of War de Bob Dylan sur France Culture. D'entendez-vous l'écho. Industrie de la défense, l'union fait la force. Point d'interrogation, c'est notre sujet. Aujourd'hui, les économistes Fanny Coulon et Renaud Bellet sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde par Sébastien Royer. Alors, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les Européens ont repris leurs investissements, augmentant de 6% leur budget militaire pour la seule année 2022. Et on va voir que l'essentiel de ces achats est encore réalisé hors du continent. On a déjà commencé à en parler. Mais d'abord, comment cette augmentation des dépenses militaires se traduit-elle concrètement aujourd'hui en Europe, Renaud Bellet?
Ça se traduit par des budgets qui sont plus élevés, qui compensent un petit peu un sous-investissement, mais qui prennent du temps à se mettre en œuvre, parce que une partie importante des budgets de la défense sont consacrés à des équipements de matériel, et il faut en fait changer d'échelle de production, parce qu'on avait une production qui était à un très faible niveau, qui permettait de maintenir des compétences et d'assurer un minimum d'équipement. Mais on se rend compte que, par exemple, si vous prenez les systèmes d'artillerie César de KNDS ex-Nexter, en fait, on se rend compte qu'on en produit très très peu. Les obus également, on était autour de 5000 par an. Quand vous regardez que c'est à peu près la consommation quotidienne des forces ukrainiennes, on se rend compte que notre industrie n'est plus adaptée. Donc aujourd'hui, on a une montée en puissance. Sébastien Lecornu revient souvent sur le sujet.
Le ministre des Armées.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne change pas le rythme d'une industrie manufacturière du jour au lendemain. Il faut pouvoir l'adapter. Et donc, il y a une augmentation des budgets et un décalage dans le temps de l'augmentation des livraisons, qui est à peu près logique, même dans une activité civile de système complexe.
Oui, le problème aujourd'hui, comme le dit Renaud Bellet, Fanny Coulon, c'est que, effectivement, ces fonds injectés depuis 2022 servent surtout à une remise en condition opérationnelle, peut-être plus qu'à un accroissement bien réel de la taille des arsenaux.
Oui, parce que il faut réinvestir, créer de nouvelles capacités, de nouveaux sites industriels. Donc c'est beaucoup effectivement pour les obus, pour les chars, pour les munitions. Aussi, on essaie de relancer la production de poudre aujourd'hui. Hein. Mais tout ça, ça demande du temps. Et puis il faut aussi avoir la main d'œuvre, ce qui n'est pas forcément évident parce que notamment en France, l'un des problèmes est la pénurie de main d'œuvre pour l'industrie, et donc l'industrie d'armement n'échappe pas à cette problématique. Donc il suffit pas de décréter une hausse de la production d'armement pour que immédiatement évidemment ça se fasse, parce que ça demande d'augmenter les capacités, de recruter, de former. Il y a aussi les réseaux de sous-traitants qui doivent s'adapter, donc c'est pas facile.
Oui, et puis beaucoup d'activités dans lesquelles l'UE avait un vrai savoir-faire ont été rachetées, Renaud Bellet. Il y a eu beaucoup de délocalisation. On peut dire que la désindustrialisation de l'Europe a eu un lourd impact sur les armées.
En fait, la désindustrialisation dans l'armement était le fait de décisions des acteurs publics. Comme je reviens à ce point, beaucoup de décisions prises dans les entreprises de défense sont prises par l'État et non pas par les décideurs des entreprises. Et donc, on avait beaucoup de capacités importantes pendant la guerre froide pour être prêt à réagir en cas de conflit. Et on a détruit ces capacités, donc il faut les reconstruire. Il y a pu avoir des délocalisations aussi d'activités civiles qui étaient duales, qui peuvent servir pour la défense et pour le civil. Et là, ça peut poser un vrai défi, parce que on peut se donner des moyens juridiques pour réquisitionner des moyens de production. Mais s'il n'y a plus de moyens de production civile qu'on peut transformer pour les adapter à des productions militaires, c'est un problème. Or, on est passé entre 2000 et aujourd'hui de 20% d'activité industrielle à 8% en valeur ajoutée du PIB. Donc, en fait, aujourd'hui, paradoxalement, l'industrie d'armement qui existe est devenue très importante dans l'industrie d'un pays comme la France. Donc la capacité de remonter en puissance, ce n'est pas convertir des usines de voitures pour faire des avions de combat, c'est reconstruire des usines. Et bien sûr, les acteurs civils n'ont pas pris en compte les enjeux de souveraineté et d'autonomie stratégique quand ils ont pris des décisions. Hein, aujourd'hui, par exemple, prenez un groupe comme Renault, une grande partie de la production des voitures n'est plus faite en France.
Ce qui peut inquiéter, Fanny Coulon, c'est la perte de ce savoir-faire et puis la difficulté d'accéder à un certain nombre de ressources nécessaires à l'industrie de la défense. Je pense évidemment aux terres rares dont on a réalisé à quel point on en avait besoin, Fanny Coulon, en particulier avec la pandémie de Covid-19.
Oui, oui, tout à fait. Là, on s'aperçoit que dans les années 90, on a laissé se délocaliser et partir beaucoup d'industries, et notamment qui étaient liées aux militaires. Alors, il y avait eu un excellent rapport, le rapport Carayon en 2004, qui montrait comment des entreprises américaines ou des fonds d'investissement américains, souvent déguidés par l'administration américaine, rachetaient des pépites technologiques européennes dans le militaire. Donc on a eu beaucoup de pertes de savoir-faire à ce moment-là. Hein. Il y a eu des affaires célèbres comme Sematech. Bon, on voit qu'aujourd'hui, et aussi on a laissé se délocaliser l'industrie des semi-conducteurs dans les années 90 en Asie, alors qu'on avait les technologies. Et aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat, parce que les semi-conducteurs sont très importants pour la défense, pour relocaliser la production de semi-conducteurs avec énormément d'argent à la clé. Une loi, le European Chips Act, qui a été promulgué pour favoriser les subventions. Mais on se rend compte d'une dépendance dans les composants critiques et dans aussi les matières premières stratégiques, comme vous le dites. La Chine, c'est dans une stratégie vraiment très offensive et réfléchie, en fait, a progressivement acquis le monopole quasi complet du raffinage des terres rares sont nécessaires pour une grande partie de la production d'armement, notamment les avions de combat, mais aussi toute la production high-tech en Europe et ailleurs. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation de prise de conscience, de réveil assez douloureux face à une perte d'autonomie stratégique qui est évidente.
Réveil douloureux, et pourtant, il y a une vraie nécessité, semble-t-il, pour l'Union européenne de renforcer sa défense à l'heure où, aux États-Unis, Donald Trump pourrait revenir au pouvoir.
Je suis allé là-bas et j'ai fait un discours et j'ai dit, vous devez payer. L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit, eh bien monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous? J'ai répondu, vous n'avez pas payé? Il m'a répondu, oui, admettons que cela se produise. Alors moi j'ai répondu, non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai même à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures. Et l'argent a afflué.
Donald Trump, lors d'un meeting en Caroline du Sud le 11 février dernier. Quel rôle ces menaces de Donald Trump ont-elles joué dans le réarmement européen, Renaud Bellet?
Alors c'est très paradoxal parce qu'en fait, l'Alliance Atlantique fonctionne sur la contribution des pays, en effet, mais pas une contribution financière, c'est une contribution en moyens. Donc on peut dire que les Européens ont sous-investi dans leur effort de défense, mais qu'ils font leur part du job pour financer l'OTAN en tant qu'organisation. Hein, c'est une quote-part qui est définie entre États.
Mais ils n'atteignent pas, en effet, les fameux 2% du PIB
voilà, donc,
qui sont demandés.
Voilà, c'est la crédibilité de l'effort. Alors, en fait, on a eu vraiment un très gros déficit, puisque un pays comme l'Allemagne était pratiquement à 1% à une époque. L'Espagne ou l'Italie étaient en deçà de 1%. Et donc, on a aujourd'hui une remontée avec un engagement qui a été pris en 2014 au sommet de Newport de l'OTAN au Pays de Galles de passer à 2% pour tous les pays à minima. La menace que peut faire peser Trump, en fait, c'est la crédibilité de l'engagement américain au sein de l'Alliance Atlantique. Comme le Zéphanie, beaucoup de pays ont pris pour acquis en fait le fait que là on était sous un parapluie sécuritaire américain et que donc en gros on pouvait se reposer sur l'effort américain. Aujourd'hui, Trump met l'accent à sa manière sur le fait que on doit contribuer à cet effort. Par contre, la façon dont il aborde est complètement inadaptée par rapport à la réalité d'une alliance militaire, mais quelque part, il reflète aussi une position américaine qui est de dire « ne comptez pas sur nous pour prendre en charge la sécurité de l'Europe. Assurez votre propre sécurité et quand bien même Joe Biden serait réélu, la tendance serait la même. » L'expression serait différente, mais la tendance serait la même.
Fanny Coulon.
Oui, je ne sais pas si je suis d'accord avec Renaud. Si Donald Trump était élu, si vraiment ça changerait quelque chose aux États-Unis. Bon, ce qu'on a pu appeler pendant la guerre froide, le complexe militaro-industriel est très puissant et a aussi beaucoup d'intérêts en Europe. Vend beaucoup d'armes en Europe. Ce sont des marchés très 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 importants et de manière générale. Ça fait partie aussi de l'influence américaine dans le monde. L'OTAN, Europe est extrêmement importante. Donc, ces menaces de Trump, pour ma part, je les trouve assez peu crédibles.
Et si la coopération, vous vouliez réagir.
Juste pour, en fait, c'est un reflet de sa vision transactionnelle des relations internationales. En fait, il ne cherche pas forcément à avoir un niveau particulier d'effort de défense des Européens, mais il voudrait, en fait, comme il l'a dit dans son intervention, en fait, on achète des matériels américains en contrepartie partie de la sécurité. Donc c'est vraiment une vision très transactionnelle qui n'est pas du tout celle qu'on peut envisager dans une alliance.
Je voudrais vous faire entendre à présent le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier.
Le SCAF, c'est la préparation du futur avec un nouvel avion de combat. C'est s'assurer que les technologies européennes vont développer un avion européen. Donc moi, j'accueille favorablement le fait que la Belgique rentre comme observateur. Ça peut donner l'idée qu'un jour la Belgique achète un avion non américain, donc c'est plutôt une bonne chose.
Est-ce que c'est compliqué de construire un avion de combat avec les Allemands ?
Alors, j'ai tendance à dire que plus on est de partenaires, plus c'est difficile, parce qu'il faut répartir la charge. Malheureusement, les États, et l'Europe en particulier, veut continuer à faire le juste retour, c'est-à-dire en fonction de ce que chaque pays donne en termes de budget, elle veut un retour sur son territoire. C'est pas comme ça qu'on optimise toujours les meilleurs avions. Les États-Unis font pas comme ça, les Russes font pas comme ça. Mais ce retour géographique, c'est un mode de coopération que sur lequel on pense que c'est à l'opposé de l'efficacité.
Le PDG de Dassault Aviation sur BFM Business, c'était le 20 juin 2023. Que vous inspirent ces propos, Fanny Coulon ?
Le problème du futur avion de combat est très emblématique des perspectives sur l'avenir de l'Europe de la défense et l'industrie européenne d'armement. C'est-à-dire que il y a énormément de difficultés et pourtant il faut bien arriver à se mettre d'accord pour produire un nouvel avion de combat en commun, parce qu'aujourd'hui les technologies ont beaucoup évolué et les budgets des États européens étant ceux qui sont, c'est-à-dire quand même très limités, c'est impossible pour un pays seul comme l'a fait la France France à l'époque de s'engager avec Dassault dans la production d'un avion de combat à un seul pays. La coopération semble nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons financières et technologiques.
Oui, le SCAF devait coûter 45 milliards d'euros. Finalement, il en coûte 90, c'est ça, Fanny Coulon ?
Oui, oui, c'est des budgets qui sont colossaux et impossibles à envisager pour un pays seul, en tout cas en temps de paix. Et puis de toute façon, c'est évident que c'est beaucoup plus logique, étant donné qu'Airbus existe, qu'il y ait une coopération franco-allemande sur un avion de combat. Et voilà, alors le problème, c'est qu'il y a un autre projet concurrent qui est entre le Royaume-Uni et l'Italie et le Japon, a priori. Et donc, du coup, l'idée, ça serait de fusionner peut-être ces deux projets. Et pour le moment, alors Renaud en dira peut-être plus, mais on en est à peu près là. Hein.
Renaud Bellet ?
Oui, en fait, la question, c'est que veut-on ? On peut acheter un équipement sur étagère, comme on dit, importer un équipement américain. C'est beaucoup plus simple, le produit est développé, on a des séries beaucoup plus grandes, donc on a, en priori, un prix plus raisonnable. Mais ça crée une dépendance. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser l'équipement comme on le souhaite. Par exemple, quand on a acheté des drones Reaper américains pour aller au Mali et au Niger, en fait, on n'avait pas la capacité de les opérer comme on voulait. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez.
Oui, parce que les temps de construction sont très longs.
Non, c'est juste que, en fait, les Américains ont mis des restrictions d'usage. C'est-à-dire qu'on a acheté des équipements qui ne pouvaient être déployés que dans la région, opérés depuis le Colorado et maintenus par des techniciens américains. Donc, en termes d'autonomie stratégique, on prend la mesure de ce que c'est. Donc, comme le disait Fanny, on ne peut pas supporter le prix d'un programme majeur comme ça sur le seul budget français. Et donc, l'idée est de partager avec des gens qui ont des intérêts équivalents. Le vrai problème des coopérations, c'est que parfois, les gens viennent avec des objectifs différents. Ce qui fait qu'on ne peut pas se tomber d'accord sur ce qu'on veut faire. Et donc ici, c'est certainement aussi l'intérêt d'avoir d'un côté des grands groupes comme Airbus qui peuvent trouver un équilibre, parce qu'ils sont sur les différents pays concernés, mais aussi peut-être une des incitations par la Commission européenne, puisqu'elle pourra dire aux différents acteurs, bon, il faut vous mettre d'accord sur quelque chose de raisonnable. Parce qu'on a eu dans le passé des programmes en coopération qui ne l'étaient pas. On a des programmes en coopération qui ont de coopération que le nom, où on a en fait fait un programme commun pour justifier et préserver des projets, mais avec des produits tellement différents qu'on a ruiné l'économie de la coopération. Il n'y avait plus d'économie d'échelle, il y avait plein de dysfonctionnements et un morcellement de la production. C'est qui est antinomique avec la logique même de faire une coopération.
Si la coopération entre États européens semble aujourd'hui nécessaire, c'est, on l'a dit, parce que le prix des systèmes de défense a explosé ces dernières années, c'est aussi parce que les délais de livraison se sont allongés, Renaud Bellet ?
Alors, les délais ne se sont pas forcément allongés, on a des systèmes plus complexes. Si vous comparez l'automobile, les avions civils, eh bien, si vous voulez augmenter la production, c'est 1, 2, 3 ans selon le type de modèle et la complexité. Comme le disait Fanny, malheureusement, l'intégrateur ne fait qu'une petite partie du travail. Vous avez des chaînes de valeur avec des centaines d'étapes dans cette chaîne de valeur. Et donc, il faut synchroniser tous ces acteurs, qu'ils puissent recruter des personnels, comme le disait Fanny, qu'ils puissent investir. Et donc, en fait, quand vous fabriquez la première pièce élémentaire, par exemple, d'un A320, eh bien, vous avez l'avion 18 mois plus tard. C'est pareil pour des équipements militaires. Donc, la plupart sont des équipements très complexes. Et c'est cette complexité qu'il faut avoir en tête avant de penser que c'est un armement.
France Culture.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé.
Entendez-vous l'écho.
Et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Tiphaine de Roquigny.
Nous arrivons à la fin de cette discussion sur l'industrie européenne de la défense. L'un des obstacles aujourd'hui auquel doit faire face ce secteur de la défense européen, c'est le fait que les intérêts économiques nationaux entrent en conflit avec les intérêts européens, Renaud Bellet.
En fait, les États ont peu de domaines sur lesquels ils ont encore la main en termes de politique économique et technologique. Et la défense, du fait des traités, comme disait aussi Fanny, du fait des traités internationaux comme l'OMC, on a exclu de domaines de compétences la défense. Et donc, ils ont une certaine réticence des États à lâcher quelque chose. Et on le voit, par exemple, quand la Commission européenne, pour le programme ASAP, qui est un programme d'achat de munitions, a demandé à avoir une visibilité sur les capacités de production nationale et la capacité à donner des priorités dans la production, les États on dit stop. Et pas que la France. Parce que justement, en fait, la Commission allait se substituer en fait aux États en termes de régulation de l'activité. Et ça, c'est quelque chose que qui est un peu la limite, parce qu'on n'a pas un État fédéral en Europe. Aux États-Unis, la question ne se pose pas. C'est une compétence fédérale. Les États peuvent râler, les États fédérés, mais ils n'ont pas voix au chapitre. On est dans une situation intermédiaire, où on n'est plus complètement capable de faire les choses au niveau national, mais on ne peut pas lâcher à un niveau supranational la régulation de cette activité.
Oui, demeurent des enjeux de souveraineté industrielle, Fanny Coulon, qui font que les protectionnismes nationaux restent forts.
Oui, alors bon, le protectionnisme national dans l'industrie de défense peut avoir un intérêt, parce que notamment pour protéger les actifs stratégiques, on voit avec l'affaire Atos par exemple que le gouvernement, enfin l'État reprend les activités liées à la défense et aux services de renseignement, ce qui est une bonne chose hein, pour garder donc le contrôle de technologies extrêmement sensibles pour le militaire. Il y a eu d'autres précédents, notamment Photonis aussi, où il y avait eu le blocage d'un rachat par des Américains, donc on voit que les choses changent. Après, c'est pas parce que la souveraineté nationale est nécessaire et perdurera sans doute qu'il faut pas plaider pour plus d'investissement de l'Union européenne dans la défense qui permettrait notamment de développer des productions en coopération et notamment bon l'idée d'un grand emprunt européen pour financer le développement de l'industrie de défense européenne est une idée intéressante. En fait, hein, parce que ça permettrait de débloquer des financements qui sont nécessaires pour accélérer les coopérations. Parce qu'aujourd'hui, dans l'urgence et dans la crainte, en fait, aussi de la Russie hein, et de la géopolitique mondiale, beaucoup de pays européens achètent américains, et notamment l'Allemagne, la Pologne, sans parler de la Pologne, bien sûr, mais aussi le Danemark, la Belgique, etc. Beaucoup de pays ont acheté américains. Et donc, c'est vrai que derrière, enfin, le nerf de la guerre reste évidemment l'argent, les budgets, et de ce point de vue-là, il faut que l'Union européenne, si elle veut vraiment faire revivre l'industrie d'armement européenne, doit débloquer des financements, sans doute.
Dans son discours de la Sorbonne fin avril, Emmanuel Macron a relancé le débat sur la mise en place d'une véritable défense européenne. Les règles du jeu ont changé, a-t-il déclaré, du fait de puissances désinhibées comme la Russie et l'Iran. Il a également regretté, je cite, un réveil encore trop faible face au réarmement généralisé du monde. Vous partagez ce point de vue, Renaud Bellet ?
Oui, il y a un effet une prise de conscience qu'il fallait faire plus, mais qui n'était pas une contrainte immédiate. On n'a pas le souffle de l'ours ou du dragon dans la nuque qui nous incite à bouger. Et donc, en fait, le réveil était assez tardif. Et donc, on est plutôt dans des logiques où on essaie d'avoir une vision d'impact économique et social de la dépense de défense plutôt qu'une logique de constitution d'un modèle d'armée qui soit efficace. Et donc, cet entre-deux est toujours problématique. Si vous regardez les discours de Mme Parly quand elle était ministre des Armées, elle parlait toujours de souveraineté, mais aussi des retombées économiques et sociales de l'effort de défense. Malheureusement, en Europe, on a surtout privilégié cette deuxième dimension plutôt que la première, mais qui est la mission essentielle pour laquelle on a un budget de défense. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité internationale. Donc ici, la question qui se pose, c'est faire plus, mais faire aussi mieux, et mieux coordonner les efforts, mieux utiliser les actifs industriels. C'est ce qu'a fait à peu près Thierry Breton à propos des munitions pour augmenter les livraisons à l'Ukraine. Aller chercher les capacités de production là où elles sont, parce qu'en fait, comme on a une industrie qui est petite, elle est souvent à saturation compte tenu des productions. Et par contre, c'est inégal sur les territoires. Par exemple, Rheinmetall, entreprise allemande qui fait des munitions, a racheté l'espagnol Expal, parce qu'en fait, il n'était plus capable de produire en Allemagne, mais il pouvait produire depuis l'Espagne, qui était en sous-utilisation de son outil industriel. Donc ici, il y a un effet de rattrapage. La question, c'est quel modèle d'armée on veut avoir, quel est le bon niveau de stock qu'il faudrait avoir. Et là, la question, c'est dans quelle mesure peut-on prendre le niveau pertinent par rapport à la guerre en Ukraine. En quoi elle est-elle représentative d'un futur conflit potentiellement.
Et c'est effectivement en s'appuyant sur la guerre en Ukraine, en se préparant à un conflit de haute intensité comme celui qui a cours en ce moment en Ukraine, que l'Europe tente de se réarmer. Pour vous, il faudrait en effet, comme l'a proposé Thierry Breton et puis d'autres dirigeants européens, il faudrait un nouvel emprunt européen. Et qu'est-ce qu'il représenterait cet emprunt? Qu'est-ce qui serait nécessaire selon vous, Renaud Bellet?
Alors en fait, on voit bien qu'on est dans une contradiction. Même au Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne, En fait, on parle d'augmenter les dépenses militaires si les conditions économiques le permettent. Les Britanniques ont dit 2,5% du PIB, si les conditions économiques le permettent. Donc ça veut dire en fait qu'on n'est pas dans une vraie économie de guerre, puisqu'en économie de guerre, en fait, la priorité, c'est la défense. En fait, aujourd'hui, on reste dans un effort, une prise de conscience, mais on ne pousse pas le raisonnement jusqu'au bout en disant on peut aller au-delà des règles d'équilibre des budgets. Les Allemands sont toujours obsédés avec le Schwarzenegger, l'absence de déficit budgétaire, la réduction du déficit.
On en a parlé également. Dans notre émission lundi.
Regardez les débats qu'on a eus avec le président et le premier ministre sur le sujet ces derniers temps, le ministre de l'économie, les économies supplémentaires. Donc, si on veut augmenter les dépenses militaires et qu'on ne veut pas augmenter le budget, il faut réduire les dépenses sociales. Et c'est inacceptable pour la population parce qu'on n'est pas en guerre. Donc ici, si on veut vraiment se préparer à la guerre, il faut faire un processus exceptionnel de dépenses. Et donc ici, décider en commun de changer les règles, comme on a fait pendant le Covid. Mais le problème, c'est que les États ont du mal et ont des finances qui sont déjà fragilisées. La solution qui est proposée, c'est de sortir par le haut, en quelque sorte, en utilisant des financements communautaires qui vont permettre, ou un emprunt communautaire, puisque l'Union européenne a très peu de dettes, et donc elle a une très bonne qualité de signature auprès des investisseurs. Et donc, d'où le projet de Thierry Breton de proposer pour la prochaine perspective financière un budget de 100 milliards, qui est quand même très limité, puisqu'il faut garder en tête que les pays européens dépensent chaque année plus de 300 milliards déjà dans la défense en euros. Donc 100 milliards de plus sur 5 ans, ça reste un bonus, mais qui pourrait être un effet accélérateur.
Pour conclure, on peut dire qu'il y a eu une vraie prise de conscience, une vraie avancée, Fanny Coulon, avec cette stratégie industrielle européenne proposée par la Commission européenne, mais qu'il aurait fallu, qu'il faudrait encore aller plus loin.
Oui, et c'est sans doute, je pense, une chance pour l'Union européenne pour exister, en fait, et avoir une visibilité auprès des citoyens européens, parce que on voit l'utilité, en fait, que pourraient avoir des financements européens dans ce domaine. Et on a complètement changé d'époque, hein, depuis l'invasion de l'Ukraine. On est sur la préparation du, comme vous l'avez dit, du combat terrestre de haute intensité. Il y a des hausses de production qui sont quand même, en tout cas, programmées, qui sont très importantes. Mais comme le dit Renaud, on n'est pas encore en économie. Enfin, on n'est pas, et espérons qu'on ne le sera pas, en économie de guerre. L'économie de guerre, c'est l'Ukraine qui aujourd'hui consacre 37% de son PIB aux dépenses militaires, selon les derniers chiffres. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en démocratie, comme le dit Renaud, c'est très difficile de faire accepter une hausse massive de la production d'armement et des dépenses militaires si on n'est pas directement en conflit ouvert.
Et dans un contexte où il y a des baisses de pouvoir d'achat massives liées à l'inflation. Merci beaucoup Renaud Bellet et Fanny Coulon de nous avoir ainsi éclairés sur ces enjeux de la défense européenne. Merci beaucoup aussi à Frédéric Cabri de France Bleu Isère qui a assuré ce duplex. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, Les industries de la défense dans le monde. C'est paru aux presses universitaires de Grenoble. Fanny Coulon et Renaud Bellet, on peut lire votre note rédigée avec Axel Nicolas, 5 années qui ont transformé la défense européenne, enjeu pour l'UE après l'élection de juin 2024, sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Un grand merci à tous les deux.
Je suis en ta-ta-ta-ta-ta, si adieu tu m'appelles.
Je suis en ta-ta-ta-ta-ta, on dit je fais l'appel.
Si adieu tu m'appelles.
Sous la voûte, j'ai creusé tête lourde. Mais pas l'eau solide. Assise dans le bourri, son baquet était trop.
Et son baquet était giga.
On a babu, c'est la folie. Depuis, j'ai pas dormi, mais ne t'inquiète pas. On fera ça quand on sera mort. Dala et son rappeur, mon gars, y'a pas de drame.
Vas-y, maman, bouche un crâne. Ça sera ta victoire pour ce soir. 400 giga, j'ai en tas. On approche de la finale, on laisse pas. Baby, on laisse pas. Jamais on laisse,
jamais on laisse.
On peut pas me tenir en laisse. C'est le cas qu'on encaisse. Jamais on laisse. Je suis en ta 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 ta. Si adieu tu m'appelles.
Je suis en ta 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 ta. On dit je fais l'appel.
Si adieu tu m'appelles.
On dit je fais l'appel.
Je suis en ta 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 ta.
Mes pipi là m'a montré. Ses orbites dans le cerveau. J'évite d'être trop susceptible. Chute, je me
me tient à carreau. Eh, la vision dans la tête, c'est pour aller loin. On a tous les combos sur le terrain, bébé. Fais soigner tes bobos, même si tu es soin. Je suis à court d'idées pour pouvoir te blaguer. C'est comme de l'eau, baby daddy veut partir à zéro. Tu es dit de laisser flacol.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho, la découverte musicale du jour. C'est Anta, le nouveau single de la rappeuse ivoirienne Mosti avec la française Lala Ace. Demain, industrie de la défense. Non, pas du tout. Demain, nous allons parler de Barjavel. Nous avons déjà parlé de l'industrie de la défense. Nous parlons de l'économie selon René Barjavel avec Hugo Bellagomba et Natacha Vazder. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.